Nous avons donc terminé cette topique un peu trop longue et en même temps pas assez longue. C'est comme toujours quand on veut faire une topique sur ce problème de la personne. On voit que c'est un sommet de la pensée qui a été regardé d'une façon très diverse. Au fond, c'est un peu l'horizon de la philosophie. Et quand on dit que l'homme est l'horizon de la philosophie, je crois que c'est bien ça, que c'est l'horizon. En ce sens que, par rapport au monde physique, c'est la réalité physique la plus parfaite que nous expérimentons, parmi tous les vivants. L'homme apparaît comme le vivant. Alors évidemment, on peut le concevoir comme l'animal supérieur qui domine le roi des animaux, ça reste toujours vrai. Alors, c'est le roi des animaux, et il a quand même une taille de plus que les autres, et quelquefois ça lui permet de dominer les autres, et de tout ramener les autres à lui, quelquefois ça lui permet d'être plus généreux, d'être royal. Et puis, en même temps, il y a l'esprit. On voit très bien que toutes les philosophies se heurtent à ces deux aspects. Alors ça se traduit nature, esprit. Je crois qu'on peut dire que de fait, là, il y a une constante qu'on a découvert constamment dans toutes ces pensées philosophiques. La nature, c'est la détermination. La personne humaine apparaît comme ayant une détermination. Détermination biologique, détermination psychologique, elle est déterminée. Et en même temps, il y a l'esprit qui l'ouvre vers le plus. C'est pour ça que la personne humaine ne peut pas se replier sur elle-même. Et elle implique un dépassement. Et le dépassement, c'est l'esprit. Ce sont ces deux données qu'on retrouve constamment et exprimées de façon très diverse selon les diverses philosophies. Je dirais, ceci est commun à la philosophie réaliste et au néoplatonisme. C'est intéressant de voir que là, il y a quand même une donnée qui est commune. Je crois qu'on ne peut pas dire plus comme notion commune. On voit que c'est du moins comme notion reconnue par tous les philosophes. Étant donné la très grande diversité de ces positions philosophiques, je crois que nous devons reprendre le problème à la racine aujourd'hui. Et je commencerai par montrer d'abord, très rapidement, ce que disent les psychologues. Ce serait intéressant. On continuera cette question du psychologue. Si parmi vous, il y en a qui sont particulièrement aptes à présenter ça, j'aimerais beaucoup que dans la session philosophique que nous aurons ici, sur la personne, on puisse présenter, alors avec tous les documents, ce que représente au niveau psychologique la recherche sur la personne. Je crois que c'est à l'égard de la personne que la psychologie prend tout son intérêt. Alors il y aurait les recherches, vous savez bien, qui font fureur aujourd'hui, fureur dans certains domaines, et dans certaines perspectives, toutes les recherches du Perrache, de Poitiers, qui a commencé là-dessus. Et au Canada, ça fait particulièrement des dégâts extraordinaires. En France, ça a pénétré jusque dans les foyers de charité, puisqu'on peut dire que le foyer de charité de la Roche d'Or, c'est de fait lié à toutes les recherches du Perrache. De sorte que je crois que c'est important d'essayer d'avoir une vision juste, sans passion. C'est très difficile. Hein? Sans passion. Vis-à-vis de la psychologie, où on est passionné ou on est anti-psychologue. Alors il faut être ni l'un ni l'autre. Être passionné pour la psychologie, c'est un peu de la naïveté. Et être anti-psychologue, c'est un peu de la naïveté. Alors, il faut à la fois situer ce que la psychologie peut dire et ce que la psychologie ne peut pas dire. Je crois, et nous allons essayer de le comprendre, que la psychologie ne peut pas dire ce que c'est que la personne humaine. Et donc, quand elle prétend le dire, il y a un abus que nous devons comprendre. Et nous devons être assez farouches contre ça, au point de vue philosophique. Je crois que le philosophe a le droit et le devoir de montrer que seul le philosophe peut parler de la personne. Le biologiste ne peut pas. Il le sait. Aucun biologiste ne donne une définition de personne. Je n'ai jamais vu un biologiste donner une définition de personne. Il parle de la genèse de l'homme, du vivant, mais pas de la personne. Tandis que les psychologues essaient. Alors, je crois qu'il n'est pas mauvais, dans une perspective comme celle-là, de nous rappeler ce que les psychologues peuvent dire en prenant des psychologues qui sont des psychologues. Selon, si vous voulez, une perspective psychologique de l'aspect génétique. La psychologie, vous savez bien, a une méthode génétique, dans ce cas-là de plus essentiel. Je me rallierai, parce que j'ai le jugement d'un certain psychanalyste que je connais bien, et qui considère que c'est Charles Audier qui a donné au niveau de la personne, au niveau psychologique, les choses les plus importantes. Je connais un tout petit peu Audier, je ne dis pas que je suis spécialiste de Audier, mais quand même, les choses essentielles de Audier, je les connais, et ça m'intéresse, parce que je crois, parmi tous les psychologues que j'ai fréquentés, c'est le plus honnête. Il dit les choses honnêtes. Alors, il se place de ce point de vue, d'essayer de comprendre la genèse, la formation de la personne. On n'a pas à négliger cela. On a au contraire, je crois, être attentif à ce que ça représente. Mais en même temps, au point de vue philosophique, voir les limites. Et alors, je prends Charles Audier nettement. Je ne veux pas faire ici une synthèse de la pensée psychologique sur la personne. Je m'appuie sur quelqu'un qui se place comme un psychologue et qui dit des choses qui me semblent intéressantes là-dessus. Alors, il faudrait ajouter à Charles Audier, je ne le ferai pas ici, mais je voudrais beaucoup que ça puisse se faire. Donc, si parmi vous, il y en a quelqu'un qui se trouve intéressé à ce problème, qui n'hésite pas à me le dire, et je lui donnerai comme petit travail, c'est un travail intéressant, qui n'est pas très difficile à faire, c'est un travail un peu matériel, mais qui est intéressant à faire, voir la documentation et l'information sur le PRH, sur ce que c'est que la personne. Alors, ce serait intéressant de voir si, là, au niveau psychologique, on peut vraiment parler de la personne. On en parle, mais vous comprenez, c'est matériel. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de la personne? Autrement dit, est-ce que le psychologue peut parler de l'esprit? C'est une grosse question pour moi. Est-ce qu'il peut parler de l'esprit? Ou est-ce que, de fait, le psychologue, comme psychologue, étant donné sa méthode, hein, il a une méthode, sa méthode qui veut être scientifique, qui je crois ne l'est pas, mais qui veut être scientifique, au moins elle peut s'approcher d'une certaine science, d'une certaine connaissance. Je crois que le psychologue aboutit à des lois du conditionnement humain. Je ne crois pas dépasse le conditionnement humain. Là, vous voyez, là, il y a tout de suite un problème qui est très intéressant, qui est très important, qui est donc plus critique, philosophique, et qui me semble très important aujourd'hui. Je crois que la philosophie est une métapsychologie. Mais ce n'est plus une psychologie. Alors là, on pourrait donner des quantités d'attestations brutale, violente. Vous voyez, quelqu'un comme Heidegger est très violemment opposé à la psychologie. Il ressent que le psychologue ne peut pas parler de certains domaines. Et lui prétend pouvoir en parler en philosophe et en celui qui atteint l'ontologie fondamentale. Je vous dis ça, c'est pour vous montrer que la réaction que je vous dis par rapport à la psychologie, ce n'est pas uniquement une philosophie réaliste. Elle existe. Merleau-Ponty a un peu la même réaction, surtout le second Merleau-Ponty. Et d'une certaine manière, on peut dire que les phénoménologues ont une réaction contre la psychologie, en bien montrant qu'il y a un domaine qui dépasse le domaine psychologique et que le psychologue ne peut pas atteindre. Bon, ça, c'est intéressant à se rappeler. Et c'est un problème qui est très intéressant parce qu'il est très actuel. et qu'il est très intéressant parce que aussi il nous aide à comprendre un certain dépassement philosophique par rapport au domaine psychologique. Alors, j'expose très rapidement, parce que je ne veux pas m'attarder trop, j'expose très rapidement ce que peut représenter le point de vue du problème et de la personne et de la psychologie. Je vous renvoie dans le livre sur l'être, page 757, où je résume rapidement deux positions, celle de Charles Baudouin et celle de Charles Audier. J'ai pris ces deux, non pas parce que j'étais en Suisse, parce que de fait, c'est des autorités en Suisse, beaucoup moins en France. Mais c'est intéressant parce que je crois que c'est très honnête. L'ouvrage de Charles Baudouin, Découverte de la personne, dédié à Bergson, dont les cours sur la personnalité furent pour l'auteur une décisive incitation, comporte une confrontation assidue de l'enquête psychologique et de la dialectique philosophique. Donc, vous voyez, c'est le problème vu par le psychologue. D'où c'est le problème vu par le philosophe. Évidemment, il tire le morceau. Le psychologue voudrait aboutir à la personne. Tant que le psychologue n'aboutit pas à la personne, il est dépendant d'une philosophie. Alors, les meilleurs psychologues le reconnaissent. Et des quantités de psychologues, on peut dire la majorité, la grosse majorité, ne le reconnaissent pas. Et considèrent que la psychologie peut aboutir à une vraie conception de la personne humaine. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est l'enjeu qu'on attire à soi le problème de la personne. Charles Baudouin estime que l'opposition ne se situe pas entre matière et esprit, mais entre le principe d'objectivité de toute science d'une part et le principe du sujet de la personne humaine d'autre part. La science se veut objective. Le philosophe n'est pas objectif. C'est le sujet. C'est intéressant de retrouver un problème classique retrouvé ici. Ce dernier principe est de plus en plus méconnu dans le monde occidental. Car, sous le nom de science, nous nous sommes fait de l'objectivité une idole, et dans la même mesure, s'est trouvé obnubilé à nos yeux la signification de la personne. Donc, vous voyez comment Charles Baudouin veut réintroduire le principe du sujet à l'intérieur même de son enquête psychologique, qui se veut objective. Et pourtant, la personne ne serait elle-même, ne serait-elle pas le lieu par excellence où la philosophie pourrait établir avec force ses positions. Pour Charles Baudouin, c'est en abordant le problème de la personne que nous franchissons la limite qui sépare la psychologie de la métaphysique. Et l'expérience intime du sacré lui paraît tout près de coïncider avec la découverte de la personne. Donc vous voyez bien, Charles Baudouin reconnaît qu'il y a une frontière. Le psychologue se heurte à cette frontière et le principe du sujet, ici je suis dans l'objectivité qu'on va regarder le psychologue, le principe du sujet est un au-delà. Vous voyez, le vieux reste ancien. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ont dépassé Kant. Pas beaucoup. Alors, le vieux reste kantien, c'est de dire la subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale, c'est le domaine du philosophe. C'est le domaine du philosophe qui va regarder le point de vue du sujet. Or, la personne ne peut pas se comprendre indépendamment de ça. Donc, on voit bien l'au-delà. C'est assez honnête, c'est pour ça que je le cite. Charles Baudouin est un homme très honnête, dans le sens psychologique. Alors, Charles Audier parle moins explicitement de la personne. Sa contribution à l'étude de ce problème est cependant très importante. Parce qu'il est peut-être le psychologue qui essaie de voir et de comprendre comment nous pouvons arriver à saisir l'aspect de la construction de la personne. Comment nous pouvons essayer de saisir le point de vue d'une personne qui va se réaliser. Charles Audier s'est attaché à étudier sous son aspect fondamental et non pas spirituel le problème de la genèse et de l'évolution du moi. Donc, il reste au niveau psychologique. Le moi est une donnée psychologique, ce n'est pas une donnée métaphysique. Chercher à comprendre ce que c'est que le moi auprès du métaphysique, c'est pas commun. On le verra après. Mais de fait, dans leur perspective, c'est une donnée psychologique, le moi. Et alors, on va essayer de voir comment on va structurer le moi. Et tout le problème de Charles Audier, c'est d'essayer de trouver la structure du moi. Il va appeler les sentiments du moi. Alors, vous voyez, les sentiments du moi, ce n'est pas d'ordre métaphysique, pas du tout. Mais c'est bien ce qu'il s'attache à étudier sous son aspect fondamental et non pas spirituel. Il est conscient de ça. Le problème de la genèse et de l'évolution du moi. Les trois éléments essentiels ou fonctions du moi, ou sentiments du moi, qu'il découvre et explicite, sont la sécurisation, la valorisation et l'autonomisation. C'est les trois sentiments du moi. Donc, le premier, c'est sécurité. Le point de vue de l'autonomie et le point de vue de la valorisation. Le moi fort, c'est le moi qui vit de ces trois sentiments et qui implique ces trois sentiments. L'autonomisation. Celui par lequel on acquiert et maintient le sentiment d'autonomie. On acquiert ces sentiments, ça s'acquiert. C'est dans le devenir. C'est le devenir de ces trois sentiments qui l'intéressent. La genèse de ces trois sentiments. Dans un fait, il est très psychologique. Et je crois qu'il y a quelque chose de juste. Ces trois sentiments du moi représentent quelque chose d'important comme structure du moi fort. Ces trois fonctions ou processus conjuguent leur action de manière si étroite qu'on peut les considérer comme formant un seul et même processus. Il y a des interactions entre les trois. Et l'interaction entre les trois, justement, nous permet de comprendre ce que sera le moi fort. Alors vous voyez qu'il est assez facile de comprendre dans cette perspective la manière dont on lutte constamment contre les trois grandes failles de notre personne. Au niveau psychologique, hein, je suis au niveau psychologique, je ne suis pas au niveau philosophique. Au niveau psychologique, donc de notre conditionnement humain. La sécurité lutte contre une des grandes failles qui sont en nous, l'angoisse. Audier le dit sans le dire explicitement, j'explicite un peu, mais je crois que c'est vraiment dans sa ligne. Donc l'angoisse, l'autonomie, l'aliénation et la valorisation, la culpabilité. C'est ça qui me semble intéressant, c'est que d'une façon, là c'est l'aspect négatif. Ça, c'est positif. Dans le moi, dans notre moi psychologique, hein, dans notre moi personnel, nous avons six dimensions. Très curieux. Je ne sais pas si le chiffre de la bête, mais c'est intéressant. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a six dimensions. Et je crois qu'on peut toutes les ramener à ça. On peut toutes les ramener à ça. C'est une chose intéressant, parce que vous voyez que l'insécurité, notre moi psychologique, hein, qui est dans le devenir, il est toujours mesuré par le temps. Pas autrement. Le temps, psychologiquement, c'est à la fois le passé, le présent et le futur. L'angoisse, c'est le futur. L'autonomie, c'est le présent. Et la valorisation, c'est le passé. Vis-à-vis de notre moi situé dans son progrès, dans sa situation, vous avez toujours une ambivalence. Chacun d'entre nous, hein. Nous avons chacun d'entre nous ces six sentiments. Si vous n'avez pas encore saisi, il vous manque quelque chose. Mais vous avez chacun d'entre nous, nous avons ces six sentiments. Ces six sentiments sont par rapport au passé, au présent et au futur. Et je crois que ça les résume bien. C'est les crêtes. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ce sont les crêtes. Les crêtes de la structure de notre moi psychologique. Alors, nous avons en nous toujours un sentiment de sécurité, nous avons en nous un sentiment d'angoisse. Et il y a une lutte entre les deux. À certains moments, l'angoisse l'emporte, à d'autres moments, la sécurité. À certains moments, l'aliénation, à d'autres moments, l'autonomie. Et nous les portons tous en nous. Personne d'entre nous ne pourrait dire. Ah, moi, j'ignore complètement l'angoisse, j'ignore complètement l'aliénation, j'ignore complètement la culpabilité. S'il disait ça, je dirais, il y a une sensibilité intérieure qu'il n'a pas. Nous avons tous, et nous avons tous en nous, j'espère bien, parce qu'on ne serait pas ici, nous avons tous en nous un sentiment de sécurité, un sentiment d'autonomie, un sentiment de valorisation. Je crois. Là, il y a une donnée commune. De notre moi personnel et de notre psychologique. Parce que nous sentons très bien que c'est à l'intérieur d'un devenir, parce que dans certains milieux. Ah, alors ici, intervient la question du milieu, c'est très intéressant. Parce que dès qu'il s'agit d'un devenir, le milieu est absolument nécessaire. Dans certains milieux, certains moi personnels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il parle du moi, et au fond, c'est le moi personnel, il ne dit pas la personne. Et il a raison. Psychologiquement, c'est le moi personnel. Je crois qu'il faut dire le moi personnel, on va dire la personne. Et dans certains milieux, le moi personnel va immédiatement faire que l'angoisse va augmenter. Comment se fait-il? Il y a certains milieux dans lesquels le moi, l'angoisse augmente. C'est involontaire, hein? C'est pas un fait. On va vivre dans ce milieu-là, c'est de l'angoisse. Alors, pour analyser, essayer d'analyser, dire, bon, ah oui, c'est parce que il y a trop de personnes. Moi, je me dis qu'il y avait quatre personnes. Quatre personnes, c'est parfait. Mais dès qu'on dépasse le nombre de 10, ah, c'est vrai. Alors, je suis angoissé. L'angoisse augmente. C'est vrai, c'est un fait. Et vous donnez le point de vue quantitatif. Augmente. Et fait que l'angoisse augmente. Parce que l'aspect angoisse, aliénation, culpabilité, c'est l'aspect quantitatif qui l'emporte. C'est l'aspect imaginaire. Nous savons que l'imaginaire est lié à la quantité. Vous savez bien. L'imaginaire est lié à la quantité, c'est-à-dire l'imaginaire est lié au sensible commun. Et dans les sensibles communs, la quantité, le nombre, ça joue énormément. Ça joue énormément. Ça ne joue pas au niveau proprement finalité. Mais dès que je suis dans la quantité, ça joue. Très fort. Sensible commun. Et puis dans ces sensibles communs, il y a la figure. Ah, ça c'est très extraordinaire. Il y a des figures. Hein, il y a des figures. Je prends la figure au sens philosophique. Hein. La figure, il y a des physionomies, des figures qui ne reviennent pas, qui nous mettent tout de suite dans l'angoisse, je ne sais pas pourquoi, il y a des masques, ce sont des masques. La figure, c'est le masque. C'est très curieux, le masque. C'est comme ça, le point de vue psychologique. C'est pas telle ou telle personne, mais c'est le masque. Telle personne, immédiatement, réveille en moi des archétypes, comme dirait Jung, des archétypes fondamentaux. L'archétype du sorcier. Il y a le masque. Alors, c'est pas drôle, hein? L'archétype du serpent. Il y a l'archétype, tous les archétypes de Jung, hein, qui sont ça, et là, qui émergent dans le masque. Je prends ça parce que c'est ça l'analyse psychologique. Si nous, dès que nous analysons, nous voyons que notre conditionnement est lié au futur, c'est l'angoisse. Il y a certains milieux où j'ai toujours l'impression d'être aliéné. C'est pas bon. Il y a un potentat. Il va qui est là, qui est là, je suis aliéné. Je n'arrive plus à trouver mon autonomie. Dès que je sors dans d'autres milieux, immédiatement je retrouve mon autonomie. Je retrouve ma sécurité, je retrouve mon sourire. Extraordinaire, je ne sais pas pourquoi. J'essaie d'analyser, il faut analyser, parce que de fait, l'aliénation, c'est ce qui vient arrêter ma spontanéité. J'ai plus aucune spontanéité. Je n'ai plus aucune autonomie. Et puis, il y a des milieux, alors, qui me mettent dans un état de culpabilité. Et ce sont les sensibles communs qui me permettent d'analyser le milieu. Le nombre, la quantité, la grandeur, la figure, le mouvement. Ah, c'est beaucoup trop agité. Ah, moi, je suis à un rythme, voulez-vous, un rythme. J'aime les enlisements. C'est mon rythme. C'est beaucoup trop agité. Il y a un mouvement fou. Et ce mouvement fou, c'est très curieux. Et on le sent très bien. Alors que quand vous êtes dans la sécurité, l'autonomie, la valorisation, non, là, quand le mouvement, c'est pas gênant. Mais qui court très bien, vous partie. Après tout, ils sont vivants, ils courent. Tandis que dès que vous êtes fatigué, un mouvement. Ah, c'est une obsession. Et la même chose au point de vue fixation, hein, enlisement. Le mouvement et la fixation deviennent quelque chose d'impossible. Il faut trouver un juste milieu. On est dans l'ordre quantitatif. Un juste milieu, c'est un milieu qui est mesuré. Ça se mesure. On peut analyser ça. C'est intéressant, c'est quelque chose qui est juste, qui nous montre que nous avons besoin de nous fortifier dans un milieu donné. Nous avons besoin de nous fortifier dans un milieu donné. Et ce milieu donné nous permet de dépasser nos angoisses, nos aliénations, nos culpabilités. Je ne cherche pas très bien l'origine de tout ça, très visible, chacun a sa petite théorie. Alors, très bien, Odier n'est pas freudien à ce point de vue-là, parce que si j'étais freudien, je verrais que tout ça, hein, c'est des complexes, tout ça, c'est des refoulements. On voit à 2 ans, j'ai eu un père qui a été terrible pour moi, il m'a aliéné complètement. Et depuis, je retrouve le masque du père. Le masque du père, le masque qui est pour moi le potentat. C'est vrai, cette recherche-là, c'est bien. Je retrouve ça. On voit très bien, dès que je recherche l'origine de l'aliénation, de l'angoisse, d'où vient l'angoisse. L'angoisse, c'est que quand j'étais jeune, il fallait absolument passer des examens. Si je ne passais pas ces examens avec réussite, c'était affolant. Alors dès qu'on arrivait à l'examen, c'était effrayant. Si, il y a un de mes cousins qui avait résolu la solution en disant ben, ça m'est bien égal d'être le dernier. Alors il avait complètement désarmé ses parents, parce qu'il était le seul dans sa classe et qu'il ne faisait rien de dernier. Et avec les parents, alors il était toujours dernier. Ça ne faisait rien. Donc c'était charitable comme solution. Oui, c'est une manière désarmée, ça. C'est une manière de... Mais évidemment, ça peut laisser des traces après. Non? Parce qu'il n'y a pas que des examens dans la vie. Mais on voit très bien comment on peut très bien arriver à trouver des solutions. On trouve des solutions, en fait, comme ça. Devant certaines choses qui nous ont mis dans l'angoisse, l'aliénation, la culpabilité. Bon. Ceci nous permet de comprendre comment notre moi devient un moi fort, personnel, à travers le temps. Mais il le sera toujours dans cette logique. Ceci a un intérêt parce que nous y retrouvons. C'est évident, on se retrouve là-dedans. Je dis, mais oui, c'est très bien. Je vois très bien que dans tel ou tel milieu, c'est intéressant du reste, parce qu'il y a une donnée vraie. Vous voyez que cette donnée reste uniquement au niveau du sentiment, c'est-à-dire de la conscience que j'ai de découvrir en moi une autonomie, une sécurité et une certaine valorisation. Après tout, je vaux aussi bien que les autres. Il y a en moi des capacités qui sont ces sentiments de valorisation. Je reste donc au niveau du conditionnement humain. Je ne dépasse pas le conditionnement. Odier ne parle jamais de la finalité. Jamais. Ça n'existe pas. Il ne parle jamais de la vérité. Ça n'existe pas. Dans sa perspective, à lui, hein. On est uniquement quelqu'un qui essaie, autant que possible, de maintenir une harmonie. Une harmonie entre ces différents sentiments, puisque je suis dans le temps de vie, et ces sentiments qui dominent l'aspect négatif. Et en fond, c'est ça l'harmonie. C'est que l'aspect positif domine toujours l'aspect négatif. J'accepte l'aspect négatif, mais pas plus loin. Que si ça va plus loin, je fais le digne, si vous voulez. Je fais le digne. Pour empêcher ces sentiments d'arriver à supprimer la sécurité, l'autonomie et la valorisation. Donc, il ne nous dit rien de plus. Et je crois que là, nous saisissons l'honnêteté du psychologue et les limites du psychologue. Parce que c'est très bien de sentir ça. Mais quelles seront ma manière de lutter contre tout cela? Alors on parlera de motivation. La motivation, c'est l'erzaz de la finalité. Mais il faut une motivation, oui, il faut à tout prix avoir une certaine sécurité dans la vie. Il faut avoir une certaine sécurité. Il faut à tout prix avoir quand même un certain sentiment de valeur. Il ne faut laisser pas écraser sur le par tout le monde. Mais après tout, reconnaissez que vous avez quand même autant de valeur qu'un autre. Et puis j'avais autant d'autonomie qu'un autre. Et alors, on rend confiance, mais on ne finalise pas. On rend confiance pour permettre de dépasser ces luttes, mais on ne finalise pas. Donc, il n'y a aucune émergence de l'esprit. Et on dit, on est tout à fait conscient. C'est les fondements. Et au niveau fondement, c'est juste. Le point de vue psychologique donne les fondements. Ça ne donne pas plus que les fondements. Et les fondements, ce n'est pas la finalité. Je crois que c'est ça qui nous fait comprendre la limite. L'intérêt de la limite. Alors si, justement, vous enfermez le point de vue psychologique sur lui-même, vous voyez qu'on arriverait au 666. Hein. Là, ça, c'est assez curieux. Hein. C'est assez curieux de voir comment on arriverait, de fait, à l'homme qui n'aurait plus qu'un seul souci, chercher son autonomie, sa volonté, lutter contre. Alors, vous avez toutes les batailles possibles. Hein. Vous comprenez bien. Vous pouvez faire toutes les luttes possibles. Hein. Quand vous avez compris le système, vous voyez très bien. Parce que c'est vrai, il y a une lutte directe, mais en réalité, il peut très bien se faire que la culpabilité vous enlève toute sécurité. Parce que ça vous donne ça. La culpabilité vous met dans le trou. Alors, il faudrait savoir si c'est la culpabilité qui est derrière, ou si c'est l'angoisse qui est derrière. Ça serait très intéressant. Ou si au fond on est dans un domaine anarchique, qui fait que chez certains c'est la culpabilité, d'autres l'angoisse, et d'autres l'aliénation. Ce que je croirais plus. Parce qu'on est dans un domaine négatif. Alors dans un domaine négatif, il n'y a pas d'ordre. C'est anarchique. Mais dans le domaine positif, je peux me demander qu'est-ce qui serait le plus proche de la finalité? Est-ce la sécurité, l'autonomie ou la valorisation? Ça, je peux me poser le problème. Vous voyez, du côté positif, il doit y avoir un ordre. Vous voyez, du côté négatif, c'est l'anarchie. Alors ça dépendra des individus. Ça dépendra des sensibilités. Ça dépendra du milieu dans lequel vous avez lutté. Et là, ce sera intéressant de connaître sa fragilité plus grande. Est-ce que votre fragilité plus grande, est-ce que c'est du côté de l'angoisse? Est-ce que c'est du côté de la culpabilité? Et là, il y a des fragilités que chacun d'entre nous, différemment selon notre éducation, selon le milieu dans lequel on a été. Et ça, je crois qu'on peut détecter, chacun d'entre nous, ses fragilités. Vous allez dire, moi j'ai les trois. C'est vrai, si vous avez pu avoir les trois, mais vous pouvez saisir quand même, il y en a une dominante. Mais ce qui peut aussi se faire, c'est que dans tel milieu, c'est telle fragilité qui se développe, et dans tel autre milieu, c'est telle autre fragilité. Ce qui montre qu'il n'y a pas d'ordre du côté négatif. Et du côté positif, on peut se demander. Mais au fond, le psychologue ne le dit pas. Il ne donne pas d'ordre. Et je comprends très bien que pour découvrir cet ordre, il faut dépasser la psychologie. Et je crois que c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où la philosophie peut apporter une nouvelle lumière à la psychologie, parce que je crois ceci très sérieux et très intéressant. Je ne crois pas qu'on ait dit quelque chose de plus intéressant par rapport au moi personnel. Je ne crois pas. Je crois que ça, c'est quelque chose qui me semble être... C'est un peu tout le fruit de toute sa recherche. Ça me semble quelque chose qui est valable. Ça a une certaine... C'est valable, c'est juste. Vous tâtez le bout de six façons. Vous tâtez le bout de six façons. Et l'unité se fait autour du moi. Ça ne fait pas en dehors du moi. Ça se fait dans l'immanence psychologique. Parce que le psychologue reste dans l'immanence psychologique. Et il ne sort pas de cette immanence. Je ne peux pas m'arrêter là. Donc, je dois, au point de vue philosophique, essayer de découvrir qu'est-ce que c'est qu'une personne au niveau philosophique. Donc, je dirais que cette notion de la personne, à ce niveau psychologique, est comme une pierre d'attente à la philosophie. Ça montre que je ne peux pas rester là. Et je crois que si on faisait l'étude sur le Perrache, on aurait quelque chose d'assez analogue. La seule différence, c'est que Perrache prétend, lui, toucher la personne. Charles Guier à quelque chose de plus honnête. On comprend très bien. Il y a un aspect apologétique dans le Perrache. C'est né d'un milieu ecclésiastique. Alors, c'est un aspect apologétique. Tandis qu'au contraire, le Perrache, c'est dans un milieu psychologique et purement psychologique. Alors, il y a une espèce d'honnêteté psychologique. Je peux dire ça, je ne peux pas le faire. Débrouillez-vous. Et c'est ce qui fait comprendre comment le point de vue psychologique ne pourra être efficace que par anarchie. C'est l'homme qui se sert de sa psychologie, c'est ça l'anarchie, qui rééduque. C'est pas de la science, c'est de la rééducation, c'est de l'art. Et donc tout dépendra de la valeur du bonhomme qui fait ça. On peut se servir ça de façon très bête, on peut s'en servir de façon très intelligente. Parce que justement, ça dépendra de là. La science comme telle ne sauve pas. Les lois psychologiques, si intelligentes qu'elles soient, ne sauvent pas. Elles ne peuvent pas sauver. Il faut aller plus loin. Et c'est là où l'apport philosophique nous donne quelque chose. Alors, comment aborder le problème de la personne au niveau philosophique? Je crois qu'il faut d'abord remarquer que le point de vue de la personne au point de vue philosophique doit représenter comme un aspect du sommet de toute la recherche philosophique, proprement dite. Je dis bien sommet, parce que dès que je découvre l'au-delà de la personne humaine en découvrant l'être premier, j'entre en théologie. C'est la philosophie qui se transforme en théologie. Tandis que la personne reste à un niveau proprement philosophique. J'ai l'expérience immédiate de ce que c'est que ma personne. Et j'ai l'expérience psychologique, et je peux avoir une expérience plus réaliste que l'expérience psychologique. Parce que l'expérience psychologique reste dans la conscience que j'ai de mon moi. Et c'est pas en restant dans la conscience de mon moi que je pourrais sortir de l'immanence pour découvrir un au-delà. Je vais donc comprendre en premier lieu que toutes les parties de la philosophie doivent me dire quelque chose de la personne humaine. C'est en ce sens-là que le problème de la personne, c'est bien un problème de philosophie première, nous le traitons en philosophie première, mais c'est un problème de philosophie première qui va, d'une certaine manière, faire la synthèse de toutes les parties de la philosophie. Toutes les parties de la philosophie sont ordonnées au problème de l'homme. Et toutes les parties de la philosophie vont se synthétiser dans le problème de la personne humaine. Alors, je pars de ces diverses parties de la philosophie pour essayer d'aborder le problème de la personne. Ceux qui ont lu le livre du Saint-Père, La personne et l'acte, je vous la recommande, du reste, c'est intéressant. Le Saint-Père part d'un point de vue très proche de la phénoménologie d'aujourd'hui. Et très vite, le Saint-Père dit qu'il ne reste pas à ce niveau, et qu'il ne veut pas rester à ce niveau, et qu'il veut introduire un point de vue ontologique, donc un point de vue philosophique. Et bien, c'est ce que nous faisons tout de suite. Nous essayons de nous servir des expériences de toutes les parties de la philosophie, et dans une lumière de philosophie première. Première expérience de la personne humaine. Alors, je prends les grandes expériences de la personne humaine que nous pouvons tous avoir. La première expérience de la personne humaine, c'est l'homme qui travaille. C'est vrai que c'est dans cette expérience de l'homme qui travaille que l'homme fait l'expérience de la matière qu'il est capable de transformer. Vous voyez que là, tout de suite, je suis au-delà de la conscience psychologique. Et je retrouve là immédiatement un contact avec une réalité qui me dépasse, la matière. Je prends matière ici au sens le plus vaste, tout ce qui est capable de transformer. L'homme travailleur, et je crois qu'il faut partir de là pour le problème de la personne. Je travaille. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je travaille? Laissez-moi tranquille, je travaille. C'est le sérieux du travail. Le sérieux du travail caractérise la personne humaine en premier lieu. Quelqu'un, un homme qui ne sait pas travailler, est-ce qu'il a encore une personne humaine? Le dilettantisme complet au niveau du travail, je crois, fait qu'il y a une faille. On essaiera de comprendre laquelle. Et je crois qu'on ne peut pas nier cela, que la personne humaine se structure en premier lieu du côté du travail. En premier lieu, au plan philosophique. Je ne dis pas de façon ultime, mais en premier lieu, autrement dit, l'homme qui travaille, homo faber, l'homme qui travaille donne une dimension première. Tant que le travail existe, la personne humaine est vivante. Parce que c'est tout de suite la grande distinction qui se fait entre l'homme et l'animal. Il y a quelque chose d'unique dans celui qui dit « je travaille ». Je veux travailler. J'essaie de travailler le mieux possible, ainsi de suite. Vous avez le jeu. Le jeu de l'homme qui travaille, qui ramène cela à lui-même. Et c'est cette structure, ce n'est pas le moi. Le je travaille. Et quand vous dites moi, c'est la réflexion de l'immanence sur le jeu. Le passage du moi au jeu. Oh. C'est intéressant toujours de voir la différence entre les deux. Le jeu montre la responsabilité que nous avons quand nous travaillons. Tandis que quand vous dites moi, vous réfléchissez sur vos sentiments du moi. Donc vous êtes dans l'immanence du moi et vous ne parlez pas du tout de la responsabilité. Tandis que là, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que l'homme travailleur, ou l'homme qui travaille, eh bien, il a une domination sur la matière. Vous voyez comment on va essayer de progressivement entrer dans le problème de la personne au niveau philosophique. Et vous voyez que tout de suite, il y a une donnée nouvelle qui apparaît. C'est que l'homme, dans sa personne, implique toujours une relation à l'autre. Alors que dans les sentiments du moi, non.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.